Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La petite histoire des flocons de neige ». Publié en 2021 par Étienne Guis, est un essai illustré de vulgarisation scientifique consacré à la neige, à ses formes et aux recherches qui ont permis de les comprendre. Mathématicien et directeur de recherche au CNRS, Guis ne propose pas un manuel de météorologie, il suit, dans un ordre largement chronologique, les observations, les dessins, les intuitions et les expériences qui ont fait du flocon un objet de science. Le livre relie ainsi histoire des savoirs, physique des cristaux, chimie de la glace et mathématiques des symétries. Des premières représentations, souvent imaginaires aux images microscopiques et aux modèles contemporains, il montre comment une question apparemment simple, celle des six branches du flocon, ouvre sur des phénomènes complexes. Les nombreuses illustrations en couleur jouent un rôle explicatif central, accessible dès le collège. Le volume préserve les difficultés réelles de certains modèles, tout en laissant au lecteur la liberté de ne pas suivre les développements les plus techniques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une histoire de la science construite à partir du regard sur la neige. Le fil directeur du livre est historique Étienne Guis, montre que la connaissance des flocons ne progresse pas par une découverte isolée, mais par une succession de regards, de descriptions et de corrections. Les premiers dessins ne reproduisent pas toujours fidèlement les cristaux observés. Ce qui rappelle que voir ne suffit pas, il faut aussi disposer de méthodes, de comparaisons et de moyens de conservation ou de reproduction adaptés. Johannes Kepler occupe une place fondatrice dans ce parcours, en se demandant pourquoi les flocons présentent six branches. Il formule une interrogation qui dépasse le simple émerveillement et oriente la recherche vers la régularité géométrique. Le livre fait ensuite rencontrer des observateurs issus de métiers et de pays variés, parmi lesquels Thomas Bartholin, Robert Hooke, Jean-Dominique Cassini, William Scoresby, les Gleicher et Wilson Bentley. Cette diversité importe la science de la neige, se forme à la rencontre de pratiques savantes, artistiques, photographiques et instrumentales. Guy restitue également la part de femmes ayant étudié la neige ou contribué à ses travaux, contre une histoire scientifique réduite aux seules figures célèbres. Cette approche met surtout en évidence une leçon de méthode hypothèse incomplète. Erreurs de dessin et interprétations provisoires participent à la construction du savoir, dès lors que les observations peuvent être reprises et discutées. Deuxièmement, les six branches comme porte-entrée vers la géométrie des cristaux, la symétrie hexagonale constitue le noyau mathématique le plus visible de cet essai. Un flocon peut présenter une grande variété de silhouettes, avec des plaques, des aiguilles, des étoiles ou des ramifications élaborées. Mais sa structure manifeste généralement une organisation autour de six directions. Le livre utilise cette régularité pour rendre concrètes les notions de symétrie, de rotation et de pavage, sans les séparer du phénomène naturel qui leur donne sens. La question posée par Kepler, pourquoi 6 et non 5 ou 7, conduit progressivement vers la structure cristalline de la glace. Les formes visibles à grande échelle ne sont pas un simple ornement, elles sont liées à la manière dont les constituants de la matière se disposent dans le cristal. Guy relie donc la géométrie observable aux propriétés de la matière, tout en évitant de faire croire que la symétrie explique à elle seule chaque détail du flocon. Les ramifications dépendent aussi des conditions de croissance et de leur évolution. Le lecteur comprend ainsi la différence entre une règle structurale stable et une forme finale singulière. Les évocations de pavage prolongent cette réflexion en montrant que les mathématiques permettent de décrire des organisations régulières bien au-delà du dessin scolaire de la petite étoile. Cette partie donne aux notions abstraites une fonction descriptive précise reconnaître les contraintes qui organisent la beauté complexe des cristaux. Troisièmement, température, humidité et croissance de la glace dans les nuages, le livre explique que la forme du flocon est liée aux conditions physiques rencontrées durant sa formation, notamment la température et l'humidité. Cette idée transforme le flocon en trace matérielle de son passage dans un environnement atmosphérique particulier. Il ne faut pas en déduire que chaque cristal livre une mesure simple et complète du ciel, sa croissance dépend de conditions changeantes et de mécanismes multiples. Mais la corrélation entre certaines formes et les conditions de formation donne un fondement scientifique à la classification des flocons. Dans cette perspective, les expériences de Ukichiro Nakaya, qui parvint à produire des flocons artificiels, marquent une étape décisive. Elles permettent de contrôler des paramètres et de comparer les cristaux obtenus, plutôt que de dépendre exclusivement de spécimens fugitifs recueillis en plein air. Guy fait ainsi percevoir le passage de la collection de curiosités naturelles à une science expérimentale. La formation cristalline exige aussi de considérer les atomes, les molécules et les changements de phase de l'eau, mais ces notions sont introduites au service du phénomène étudié. Le lecteur saisit pourquoi les cristaux sont à la fois ordonnés et sensibles à des variations locales infimes. Deux flocons peuvent relever de la même organisation hexagonale, tout en ayant suivi des itinéraires différents dans le nuage. Leur diversité ne contredit donc pas les lois physiques, elle en révèle la finesse et la dépendance aux conditions de croissance. Quatrièmement, de la photographie des flocons au modèle de cristallographie. Une dimension essentielle de la petite histoire des flocons de neige concerne les instruments et les représentations qui rendent le phénomène étudiable. Les dessins anciens, les gravures, les photographies et les images obtenues grâce au microscope ne sont pas seulement décoratifs. Ils témoignent des moyens disponibles à chaque époque pour observer un objet fragile, minuscule et rapidement transformé par la chaleur. Les photographies de Wilson Bentley illustrent particulièrement ce changement, elles donnent une présence durable à des cristaux qui, sans elles, disparaissent presque immédiatement. Plus tard, les progrès de la cristallographie permettent de relier les formes visibles aux structures de la glace. Le livre aborde aussi les modèles mathématiques contemporains de croissance, associés notamment à Norman Packard, Clifford Reiter, Janko Gravner et David Griffith. Leur intérêt est de simuler comment des règles locales peuvent produire des motifs ramifiés complexes. Guy ne présente pas ces modèles comme une reproduction définitive de toute la neige réelle. Leurs difficultés et leurs limites rappellent que le phénomène résiste encore à une description complète. Certains passages deviennent par conséquent plus exigeants, en particulier lorsque la modélisation mobilise des variables et des mécanismes formels. Cette exigence est toutefois cohérente avec le propos « la beauté du flocon ne se réduit ni à une image spectaculaire, ni à une formule unique ». Elle oblige à articuler observation, expérimentation, calcul et prudence face aux conclusions. En dernier lieu, une vulgarisation visuelle qui préserve le droit à la complexité. La singularité pédagogique du livre tient à son équilibre entre accessibilité et honnêteté intellectuelle. Étienne Guis écrit pour un public large, comprenant adolescents, enseignants et lecteurs curieux, sans imposer un bagage préalable important en physique ou en mathématiques. Les chapitres courts, les portraits de chercheurs et la richesse iconographique facilitent la lecture en alternant contexte historique, observation et explication. Les illustrations permettent en particulier de comparer les représentations anciennes avec les cristaux photographiés, puis de visualiser des idées de symétrie ou de structure. Mais le texte ne prétend pas que tout soit immédiatement simple. Lorsque certaines explications physico-chimiques ou certains modèles mathématiques deviennent plus techniques, le lecteur peut les parcourir à son rythme ou les laisser de côté sans perdre le sens général du voyage. Cette liberté est une décision éditoriale utile, elle évite que la technicité bloque la curiosité, tout en ne diluant pas les questions difficiles. Le livre défend ainsi une conception active de la science. Observer, poser une question, proposer une réponse imparfaite, éprouver une hypothèse et la modifier font partie du même processus. Ce cadre rend la lecture exploitable dans un contexte scolaire, le flocon sert de point de départ pour aborder la démarche expérimentale, les changements de phase, les symétries et la modélisation. Il rappelle aussi que la vulgarisation de qualité ne consiste pas à supprimer toute complexité, mais à donner des chemins clairs pour y entrer. En conclusion, la petite histoire des flocons de neige conviendra au lecteur qui cherche une première approche sérieuse et sensible de la science de la neige, sans viser un traité spécialisé de physique atmosphérique. Les collégiens et lycéens curieux y trouveront un accès concret aux cristaux, aux symétries et à la démarche scientifique. Les enseignants peuvent y puiser des exemples pour relier mathématiques, physique, chimie, histoire des sciences et observation du monde naturel. Les adultes peu familiers des sciences y gagneront surtout un vocabulaire et des repères pour comprendre ce que révèle la forme des cristaux, tandis que les lecteurs déjà informés apprécieront la mise en perspective historique des recherches et des techniques de représentation. Son principal atout, face aux ouvrages de vulgarisation plus classiques, est de ne pas isoler le phénomène de son histoire humaine. Les flocons ne servent pas seulement de prétexte à exposer des lois, ils font apparaître les hésitations, les outils, les expérimentateurs et les transformations graduelles des connaissances. La place donnée aux dessins, photographies et documents visuels renforce cette démarche, car elle permet de voir comment les scientifiques ont appris à voir. Guy se distingue aussi par son traitement mesuré de la difficulté. Les éléments plus techniques ne sont ni dissimulés ni imposés. Cet essai bref offre donc une initiation interdisciplinaire, fondée sur un objet familier mais scientifiquement très riche. Il rappelle avec précision que l'émerveillement, lorsqu'il se prolonge par des questions vérifiables, peut devenir une véritable méthode de connaissance. Si vous souhaitez soutenir Étienne Guis, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.